Interview et retour à propos du procès à l'encontre de Christine qui s'est déroulé le 17 novembre dernier devant la cour d'Ivry. Les accusations contre elle sont violence sur 5 matons lors de son passage en juin 2014 à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Voici un résumé du procès par son avocat Benoît David ainsi que des amis à elle présents lors de l'audience.
Alors déjà, en fait, chose dont je n'avais pas été prévenu, les faits avaient été pour partie requalifiés en rébellion, qui changeait effectivement sur la peine encourue parce que c'est moins important que des violences, mais ce qui, par contre, était impossible de confusionner les peines. C'est-à-dire que vous pouvez cumuler à la fois des peines de violence et des peines de rébellion dans le même jugement. Bon, ça m'a assez agacé. On a fait un petit incident là-dessus. Et puis, je me suis dit qu'on allait l'utiliser pour le fond. Et effectivement, on a d'abord soulevé des conclusions de nullité sur le fait qu'elle avait déjà été sanctionnée disciplinairement et qu'elle ne pouvait pas être jugée deux fois pour les mêmes faits. Mmh. Ou qu'elle avait subi une mesure quasi disciplinaire en ayant été transférée aussi loin de ses proches. Bon, les conclusions, ils n'ont pas répondu. Le parquet avait l'air plutôt un peu ennuyé, mais bon, ça veut sur le fond, je ne sais pas ce que ça donnera. Sur le fond du dossier, on a eu affaire à des témoignages qui sont pour certains vraiment pas très crédibles ou pas assez corroborés. On a les déclarations de Christine qui, elles, sont constantes et qui effectivement expliquent qu'elle a pu donner des coups par inadvertance. C'est d'ailleurs ce que disent certains surveillants qui ne se sont pas constitués partie civile. Okay. Ils savent très bien que c'était dans le feu de l'action et que c'était pas particulièrement destiné contre eux. Donc voilà pour ces éléments-là. Et de l'autre côté, bon, on avait un parquet qui n'était pas non plus très démonstratif pour caractériser l'infraction, mais qui a quand même demandé un an d'emprisonnement avec mandat de dépôt à l'encontre de Christine. La décision sera rendue le 8 décembre. Et elle avait déjà été condamnée l'année dernière par la Cour d'appel de Paris pour des faits similaires. Quand elle était à Réau, fin décembre 2013, elle avait pris un mois à Melun, au tribunal correctionnel de Melun, et en cour d'appel, puisque le parquet avait fait appel, elle avait pris un travail d'intérêt général. Je l'ai vu, écoutez, ça allait comme ça peut aller, c'est-à-dire, c'est Christine, elle reste debout avec dignité, et ça allait, elle me disait que son extraction s'était bien passée, qu'il n'y avait pas eu d'incident avec les gendarmes, elle était contente de pouvoir voir ses amis qui étaient dans la salle, et après en audience, elle a bien expliqué, elle a dit beaucoup de choses, elle a jamais été interrompue, donc au moins elle a pu dire ce qui se passait à Fleury et ce qu'elle avait pu subir, et que ses réactions n'étaient justement que des réactions et non pas, pas des gestes, on va dire, intentionnés, voilà.
Au départ, en fait, il y avait 9 matons en fait qui ont porté plainte, okay. qui étaient cités en tout cas dans la citation à l'entrée du tribunal dans la feuille, je sais plus comment ça s'appelle, mais la feuille là de passage au tribunal, il y avait 9 personnes qui étaient 9 matons. Au final, donc il n'y en avait que 4 au final en tout cas qui étaient retenus, en tout cas qui ont été cités pendant le procès, parce que bon, les autres apparemment, bon, ils sont pas prononcés et il y en avait que
il n'y en avait qu'une surveillante finalement qui était présente et les 3 autres se sont fait représenter par la même avocate que celle qui était présente en tant que victime.
Et bon, mais sur les chefs d'inculpation, en fait, c'est plusieurs faits qui sont enchaînés en fait à son arrivée à Fleury-Mérogis donc en juillet dernier, enfin donc en fin juin, enfin à partir de fin juin. Donc dès son arrivée, en fait, c'était pour comme assez fréquemment quand elle arrive dans des nouvelles toiles après les transferts disciplinaires. Elle refuse les cartes de circulation, c'est-à-dire qui implique la prise d'empreinte digitale et une photo pour être mise sur la carte de circulation. Donc ça, elle refuse en tant que fichage, donc dans un refus du fichage d'une manière générale. Et ça, donc en arrivant à Fleury, elle l'a refusé comme d'habitude. Et ça, en sachant que c'est pas passible de pénal, en fait, le refus de carte de circulation. mais uniquement de sanctions administratives, okay. et du coup de en gros d'aller de partir au quartier disciplinaire, quoi. Du coup, elle, directement, quand elle a refusé, ben, elle a demandé, ben, elle a dit, bon, ben, je refuse. Si vous voulez me sanctionner, amenez-moi direct au quartier disciplinaire, ça me va. Et eux, de leur côté, ben, en fait, ils l'ont forcé. Ils l'ont forcé physiquement à être prise en photo, à lui tordre les doigts pour prendre des empreintes toutes pourries. Et une photo que d'ailleurs l'avocat a montré pendant le procès, il avait la carte de circulation qu'ils ont réussi à faire avec la photo, où elle est complètement, elle a la gueule tenue par quatre mains, complètement tordue pour être tenir devant l'objectif, quoi. Et donc ça a été une première, ça a été qualifié en rébellion. Après, les suivants, il y a deux autres faits qui sont, en fait, c'est par rapport à son, des refus de fouilles, et là pour le coup des fouilles à nu, et qu'elle refusait dans le cadre, comme d'autres fouilles aussi, qu'elle refuse, qui ne sont pas des fouilles à nu mais des par palpation, mais qu'elle refuse parce qu'il y a une loi en 2009 dans la loi pénitentiaire qui dit que les fouilles ne doivent pas être systématiques, mais doivent être justifiées. Donc là, par rapport à des fouilles à nu, en allant au quartier disciplinaire, la première, bon, la fête, c'était, enfin, les deux, à chaque fois, c'était des humiliations, quoi. Des humiliations de la part des surveillants. Le premier coup, ben, en gros, elle a donc baissé sa culotte, elle était complètement à poil, elle a baissé sa culotte, ça suffisait pas à la surveillante, elle lui a demandé de l'enlever complètement. Du coup, ben, Christine, au lieu de lui tendre, bah, lui a jeté dessus, quoi. Et après, elle est allée, quand au moment où la bâtonne s'est baissée, elle s'est mis un doigt dans le vagin, et quand au moment où elle s'est relevée, elle lui a mis sous le nez en lui disant, bon, ben quoi, tu veux vraiment savoir si j'ai du shit, si je me suis foutu du shit dans la chatte, ben bah, tiens, vas-y, t'as qu'à le sentir. Bon, du coup, évidemment, la bâtonne, elle a hurlé, elle a fermé la porte.
Elle l'a quand même insultée aussi, de tous les noms, avant de sortir.
C'est les faits sur lesquels ils sont le plus restés, quoi. Déjà là-dessus, bah, c'était une inversion, en fait, du rapport d'humiliation, quoi, parce que au départ, bah, c'est quand même les surveillants, par leur fouille à nu, bah, qui humilient systématiquement les taulards. Le troisième chef d'incubation, c'était aussi violent, et c'était une deuxième fouille à nu. Et donc là, en fait, Christine était en cellule, et donc pour lui, pour faire la fouille à nu qu'elle refusait à nouveau, ils sont rentrés à 12 matons, dont 8 casqués. Pour la tenir, la plaquer au sol, les quatre membres tenus par des matons, ils ont littéralement arraché tous les fringues pour la foutre à poil. Une fois qu'ils avaient fini ça, ben, ils sont sortis, et Christine, elle a réussi à passer, avant qu'ils claquent la porte, elle a réussi à passer son bras pour empêcher qu'ils ferment la porte. Et donc là, ils disent qu'il y aurait eu un maton qui se serait pris un coup sur la pomme. Bon, ce que Christine n'a pas du tout senti, que tous les derniers matons qui sont sortis, c'était ceux qui étaient casqués. Apparemment, il y a un témoignage qui dit, y a un maton qui dit... Je sais pas si c'est un coup, en parlant de cette matone qui a reçu un coup sur la gueule, quand au moment où ils ont fermé la porte, c'est un soi-disant, il y a une matone qui dit, je ne sais pas si c'est un coup d'un collègue ou de Madame Ribaille.
La plaidoirie de l'avocate des matons, c'était vraiment faire ce métier, c'est assurer cette mission publique, c'est un véritable don de soi, c'est un sacerdoce. Sa manière de décrire les rapports en prison, ça donnait vraiment à voir une espèce de, ben voilà, d'entendement mutuel, presque on va croire que les gens sont suivent un contrat, ça se passe comme ça, il y a un règlement intérieur et puis tout va bien, quoi. Et du coup le problème par rapport à Christine, clairement, c'est que c'est elle le problème, précisément. Elle refuse l'autorité, elle refuse tout, et ça explique tout, quoi. La plaidoirie de l'avocate Christine, il a rappelé que Christine, tous les incidents, en fait, ils se plaçaient dans un contexte de faire respecter, en fait, des droits, de faire respecter un minimum sa personne. Et ça, c'est en plus quand elle le fait. Elle le fait à la fois pour elle et pour les autres. Et puis bon, en gros, sa défense, elle tendait finalement à dire ce que dit aussi toujours Christine, enfin, et qui résume assez bien le fonctionnement carcéral. Hein. C'est juste que, en gros, Christine, on dit que c'est un problème, mais c'est surtout que juste elle réfléchit, elle conteste, elle s'exprime, et ça passe pas. Mm-hmm. Parce que la prison, ça marche sur les attentes de des surveillants et de l'administration, c'est une soumission, une obéissance inconditionnelle. Il n'y a pas à réfléchir, à savoir si c'est juste, si c'est pas juste, si ceci, si cela. Et ça, ça passe pas. Et en fait, ce procès, ça s'inscrit vraiment là-dedans, quoi. Hein. Les chefs d'inculpation sont quand même assez ridicules. C'est ridicule d'imaginer les matons comme victimes quand ils sont 12 sur quelqu'un qui est à moitié à poil, qui est même pas à moitié à poil, qui est complètement à poil et qui juste essaye de pas faire fermer une porte en passant un bras. C'est juste complètement ridicule. D'ailleurs, à propos de cette histoire, faut aussi savoir que Christine, elle, avait porté plainte aussi pour agression sexuelle sans la qualifier avec précision, mais en tout cas toutes les palpations qui ont eu lieu et qui étaient pas justifiées alors qu'elle était toute nue avec des gens sur elle et qui opéraient une fouille
qui lui a arraché des fringues, qui lui a complètement déchiré la culotte, tous les fringues qu'elle était par terre. C'est quand elle s'est retrouvée en garde à vue pour être entendue par rapport à les peines qui étaient contre elle, elle en a profité pour reporter plainte, pour se défendre. En tout cas, ce truc-là, ouais, ça a pas du tout. Enfin, ça a été soulevé pendant le procès et demandé. Enfin, l'avocat, il a accosté la proc pour lui demander où s'en était, où cette plainte. Bon, elle a botté en touche en disant oh, mais non, mais c'est pas que c'est classé, ça suit son cours. Mais bon, ça fait un an et demi que la plainte a été faite et il n'y a toujours pas de suite, donc elle est évidemment classée, quoi. Les quatre qui ont maintenu leur plainte, ils demandent tous les quatre 1 000 euros de dommages et intérêts, plus 200 euros chacun aussi pour les frais de justice, donc ce qui fait des sommes hallucinantes. Là, il y a le procès à Poitiers, qui a été reporté deux fois, donc au tribunal de Poitiers, et c'est par rapport à des faits qui ont eu lieu à la maison d'arrêt de Poitiers-Vivonne. Enfin, c'était l'année dernière, au mois de novembre-décembre. Et du coup, c'est reporté là
au 15 mars 2016.
Et oui, et aussi pour des violences, violences, outrages, rébellions. Pareil, là, pour le coup, il y a encore plus de chefs d'inculpation. Il y a une dizaine de chefs d'inculpation, mais qui sont tous aussi minimes les uns que les autres. C'est à qui celui qui s'est fait dire connard ou va te faire foutre ou je sais pas quoi.
Et ça, donc je vais te casser la gueule, très menaçant.
Donc chaque insulte est un chef d'inculpation à part entière.
Enfin, mais sur Vivonne, j'allais dire, c'est très très clair. Enfin, parce que en plus, il y a eu plusieurs. À plusieurs reprises, cette liste a été agrémentée, en fait, cette liste de chefs d'inculpation. Il y a des gens, il y a des matons qui ont commencé à porter plainte, puis plus tard, il y en a d'autres qui ont rajouté leur petite plainte, et puis tout ça. Et c'est vraiment, chacun cherche dans les archives de sa mémoire, alors quand est-ce que elle m'aurait un peu, dit connard ou j'en sais rien quoi. Et tout le monde, tout n'est même pas arrivé en même temps. Tout est arrivé petit à petit, les chefs d'inculpation sont ridicules. C'est vrai que, ça leur fait, c'est une possibilité, effectivement, d'obtenir des indemnités, d'arrondir, de se faire un 13e mois, quoi. Mm-hmm. Et puis en plus, ils savent qu'ils partent gagnants, quoi, la plupart du temps. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose aussi que l'avocat de Christine a ressouligné pendant le procès. Le sens commun veut qu'un prisonnier, s'il est en prison, de toute façon, c'est pas pour rien, c'est qu'il a merdé. Donc bref, il est malhonnête. Et ça, jamais la parole, les paroles d'un détenu et d'un surveillant sont mises sur le même plan, évidemment, dans un procès.
Et là où aujourd'hui il est incarcéré à Orléans, du coup.
Oui.
Ouais, c'est ça, ouais. Donc là, depuis la fin du mois d'août, donc c'est sa 13e tôle, du coup, en 3 ans. Ben là, au mois de novembre, ça y est, ça fait 3 ans qu'elle est incarcérée.
Ça se passe, c'est de plus en plus tendu. Ça se passait pas si mal que ça encore récemment. En tout cas, il n'y a pas d'incident qui débouche sur. Violence ou ceci, cela pour l'instant, où c'est assez minime par rapport à d'autres prisons où elle a passé les trois quarts de son temps au mitard. Là, c'est pas le cas. Mais par contre, la direction multiplie les provocations, notamment depuis maintenant quelques semaines. Bon, voilà, à titre d'exemple, elle s'était vue Christine s'était vue accorder des aménagements de temps de coup de fil avec un ami qui est dans une autre prison. Et bon, ça a été suspendu pour une raison ridicule, mais ça a été suspendu. Pareil, il y a des courriers qu'elle ne reçoit plus de cet ami. autres. Là, il y a eu des histoires de parloir. Et donc ça, il le justifiait juste sur... en prétextant que son comportement prêtait, je ne sais pas, à danger. Sans autre raison que, en fait, elle dit que c'est des provocations, quoi. Christine a dit que c'est des provocations. Et voilà, donc ça fait monter la tension et elle redoute... qu'il y a un nouveau transfert disciplinaire bientôt.
Ben, les transferts disciplinaires, ils n'ont pas à s'en justifier. C'est une décision des directions interrégionales des prisons.
Okay.
C'est l'administration qui fait remonter à la direction interrégionale. Et après, c'est des décisions qui sont prises pour par rapport à une question disciplinaire. Mais ce n'est pas, en soi une sanction disciplinaire. Ce n'est pas quelque chose qui est prononcé au moment d'un prétoire. Donc, ils ne s'en justifient pas. Mais évidemment, à chaque fois, ça se passe quand ça arrive. C'est que la tension arrive à un point où... Bah, les surveillants disent qu'ils font remonter à leur hiérarchie, qu'ils n'en peuvent plus, qu'ils veulent plus la voir, qu'ils veulent qu'elle dégage. Des fois, c'est des arènes avant qu'elle arrive à Fleury-Mérogis. En fait, on a su après coup, par Saint-Christine a eu accès à des notes internes. Il y avait eu une pétition en fait, d'un syndicat de matons qui demandait à ce qu'elle dégage. Non, mais sinon, tout complètement, enfin, pas directement par rapport à Christine, mais là, donc le parloir qu'on a eu mercredi, là, donc suite à l'état d'urgence et enfin la situation en France d'une manière générale. Mm-hmm. Bah, en Tôle aussi, là, il y a des mesures qui ont été prises. Là, enfin, en tout cas, à Orléans, je ne sais pas si dans toutes les Tôles, mais enfin, j'imagine aussi. Mais un petit truc en plus pour faire galérer les familles, c'est à l'entrée des parloirs, il faut passer sous un portique. Et bon, le système, souvent, ça sonne parce qu'on oublie soit une barrette, soit les chaussures qui sonnent, soit la ceinture. Et là, maintenant, en fait, ils ont limité, on a droit à sonner une fois. Si à la deuxième fois où on sonne, en fait, on n'a pas le parloir. Et là, dans les deux tours où on était le matin, il y a deux personnes qui n'ont pas pu rentrer. Une parce que, bon, enfin, c'est parce que c'est qu'elle a sonné. La deuxième parce que c'était son soutif qui a sonné et qu'elle avait fait des centaines de bornes. Quoi. Enfin, c'est juste hallucinant.